Les nuits de France Culture. Jusqu'à 6h du matin. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique.
La romancière Dominique Rollin écrivit son premier livre alors qu'elle était bibliothécaire à l'Université libre de Bruxelles. Auteure de très nombreux romans, elle dit d'elle-même « Très tôt, j'ai dit que je serais écrivain, je le sentais obscurément, j'ai l'impression d'être environnée de mots. » Ou encore, je cite « Écrire est à la fois un certain rire et un certain cri. » Mais Dominique Rollin est d'abord une lectrice avide et raffinée. En 1994, elle faisait découvrir sa bibliothèque à Alain Weinstein.
Du jour au lendemain, Alain Weinstein, bonsoir. Je fais des achats dans une librairie. J'aperçois Julien Gracq qui règle les siens à la caisse. Comme je veux éviter la rencontre, je fais tout un parcours à travers la boutique. Mais il m'a repéré. Il vient à moi, me serre la main chaleureusement. Je vois alors qu'il rougit avec violence et je suis tout attendri par cette marque d'émotion. Il est plus petit que dans la réalité, vêtu d'un imperméable du genre Colombo. Du jour au lendemain, dans la bibliothèque de Dominique Rollin. Ce sont deux livres, Dominique Rollin, que vous publiez simultanément chez Gallimard, Le Jardin d'Agrément, un roman dont nous avons parlé hier soir, et Train de rêve, un ensemble de récits de rêves, publié chez Gallimard également dans la collection de Philippe Solers, L'Infini, et dont nous n'avons pas eu le temps de parler hier soir. Alors ce livre, c'est tout de même un livre qui s'ajoute à bien d'autres livres d'écrivains, où les rêves sont notés et racontés.
Oui, mais alors j'insiste beaucoup sur le fait que ces rêves sont écrits d'avance. C'est vraiment là un cadeau qui m'est offert de la part de mon inconscient.
Vous voulez dire d'avance, c'est-à-dire avant même que vous les rêviez ?
Oui, je me lève le matin et tout le rêve est exactement comme s'il était écrit et comme s'il m'était communiqué, mettons par fax. Alors je me précipite sur mon cahier de notes et je le note sans une rature, sans une correction, mais au mot à mot, presque à une virgule près, j'oserais dire. Et ça n'a absolument rien de littéraire, là. C'est du tout venant, comme ça. C'est exactement le contraire de la démarche de mes prospections romanesques. Ces données, ce sont des tableaux tout faits.
Et pourquoi est-ce important pour vous de les conserver ?
Eh bien, parce que je trouve que c'est une matière tout à fait intéressante. Cette personne nocturne qui donc, à travers son sommeil, s'invente des petits romans, je fais paraître dans mes rêves des gens que je ne vois pour ainsi dire jamais ou que j'ai rencontrés une ou deux fois dans ma vie, qui ne me concernent pas directement et qui, tout d'un coup, s'imposent d'eux-mêmes et fabriquent un récit tout à fait cohérent, parce qu'ils sont cohérents, mes petits romans en question, mes petits romans rêvés. Et je trouve que c'est assez passionnant de voir ça.
Vous faites une différence entre votre inconscient de jour et votre inconscient de nuit.
Oui, parce que mon inconscient de jour travaille en vue du roman en cours, puisqu'il y a toujours un roman en cours dans mon programme, tandis que l'inconscient de nuit travaille en direct, sans s'occuper d'aucun obstacle. Il se jette, enfin, il y a vraiment des rêves absurdes et en même temps délicieux, tellement drôles. Je trouve que ce qui frappe surtout dans ces rêves, que j'oublie d'ailleurs moi-même, quand je les relis, je les ai oubliés, c'est l'humour. Il y a un côté plein d'humour. Mmh. Alors je travestis tout. Par exemple, souvent, ma mère me revient à la mémoire, et ma mère n'est pas une femme, mais c'est un enfant. C'est une petite fille, ou bien c'est une jeune fille. Il y a des travestissements de personnages qui sont vraiment du plus haut comique. Mmh. Il faut respecter cela.
Généralement, c'est un peu ennuyeux, les rêves des autres. Enfin, quand on les lit, ça ressemble un peu aux soirées où on montre ses diapositives de vacances.
Oui, mais pas avec moi.
Et là, l'humour étant effectivement la dimension principale, oui. On rit beaucoup.
Ah, c'est vrai, oh, ça me plaît. Ben, je crois que le rire dans la vie est une des choses essentielles. Et il m'arrive, par exemple, d'avoir un rêve, je dors encore, et le comique de la situation m'amuse au point que je m'éveille dans un fou rire. Je glousse au moment de mon réveil. Je crois que le rire est très important. Et j'insiste encore une fois sur le fait que rien n'est changé. Je ne veux... Il y a des écrivains qui ont des rêves, évidemment, ça c'est courant, tout le monde rêve, et qui notent leurs rêves en les embellissant, en les enjolivant, en les romanesquant, si je peux me permettre un mot inventé. Tandis que moi, pas du tout, du tout. C'est à l'état brut, direct.
Sans littérature.
Sans la moindre littérature, hors de toute littérature. D'où vraiment des personnages qui paraissent, qui sont... complètement déplacé.
Ce qui vous intéresse, ce n'est pas de les noter pour permettre, après coup, une interprétation.
Pas du tout. Je les ai toujours notés, mes rêves. Mon premier rêve, je l'ai eu à l'âge de 3-4 ans. Et celui-là, je ne l'avais pas noté, évidemment. Mais il m'est resté avec une netteté étonnante dans la mémoire. Et j'ai eu des rêves comme ça, des rêves clés, vous savez, qui ont été à un moment donné, qui ont été plantés dans certains moments de ma vie, comme des serrures, comme ça, et que je n'ai jamais oubliées. Et je les note maintenant régulièrement, parce que je trouve que c'est assez, assez étrange d'avoir cette... Je suis déjà double quand je suis à l'état d'éveil, et là, il y a encore une autre dimension de duplicité. En fait, je suis trois.
Alors là, vous avez rassemblé des rêves qui vont de 85 à 92. Vous avez dû opérer un choix.
Non, pas du tout. Vous avez remarqué qu'il y a il y a les dates. Et les dates sont tout à fait respectées. Alors, quand il y a un creux entre deux dates, ça signifie que je n'ai pas rêvé la nuit en question, ou bien que je ne me suis pas souvenu avec suffisamment de précision du rêve en question. Parce que si je me lève, et si ce récit se présente à moi tout bâti, et que je le note dans le moindre détail, alors ça fait une sorte de futur petit roman rêvé. Mais si j'attends, par exemple, si je me dis, je copierai mon rêve un peu plus tard, il se dissout, et il n'a plus rien de véridique, alors j'abandonne. C'est pour ça qu'il y a des creux dans... Mais sinon, je suis tout à fait... Là, c'est une filière rêvée.
Vos livres, Dominique Rollin, cette trentaine d'ouvrages dont nous parlions hier soir, vous leur réservez une place particulière dans votre bibliothèque ?
Non. C'est très... Je n'aime pas les livres sur le plan matière. Les livres ne m'intéressent pas. Je n'aime pas les livres. Et alors j'ai chez moi, comme ça, qui traîne un peu à droite et à gauche, n'importe où, dans un placard, etc., quelques livres de moi. Mais je n'ai pas du tout le respect d'avoir toute la liste de mes ouvrages classés. Je crois qu'il y a des écrivains qui font ça, qui sont très, très ordonnés sur le plan. Là, moi, pas du tout. Je n'aime pas physiquement le volume. Palper le volume, ça ne m'intéresse pas du tout.
Alors, c'est quoi un livre si ce n'est pas un volume ?
Pour moi, c'est une chose que j'oublie immédiatement, personnellement. J'espère que... Je n'ai qu'un souhait, c'est que les autres n'ont pas le même réflexe que moi. Mais moi, personnellement, devant un livre, je ne m'y intéresse pas du tout. Mais j'espère que d'autres, au contraire, s'y intéressent, gardent mes livres, ou parfois les relisent, pourquoi pas.
Il vous arrive de perdre l'un de vos livres ?
Perdre ?
De ne plus pouvoir mettre la main dessus ?
Non. Non, ils sont... Non, je ne cherche jamais à relire mes livres. Il m'est arrivé une ou deux fois, pour une réimpression, d'être obligé de le relire pour corriger les épreuves, mais c'est tout à fait accidentel. Et encore une fois, là, je suis tout à fait surprise d'avoir écrit certaines choses. Et alors, je suis bien obligée de m'intéresser à la page que j'ai sous les yeux. Mais sinon, je n'ai pas du tout la dévotion de mon œuvre passée.
Si vous ne vous intéressez pas aux livres, vous ne vous intéressez pas non plus aux bibliothèques.
J'ai une bibliothèque qui est enfermée dans une... ça indispose pas mal de gens, d'ailleurs, dans une armoire à glace de style empire. C'est-à-dire qu'avec les panneaux rabattus et des miroirs. Notez que je ne me regarde jamais dans un miroir, ce n'est pas du tout pour me regarder. Mais les livres n'ont pas de place physique dans ma vie. Et j'ai énormément lu dans ma vie, évidemment. J'ai lu surtout beaucoup de romans. Mais les livres n'ont pas une place tellement importante.
Ce n'est pas sécurisant pour vous d'avoir, comme certains écrivains qu'on voit sur les photographies, dans leur bureau, d'être entouré de
non,
livres
non, sur... Pas du tout. J'ai une petite bibliothèque dans mon dos, j'ai un bureau, je suis assise à mon bureau. Dans mon dos, il y a une autre petite bibliothèque avec des livres, mais je me retourne très rarement pour voir ce que c'est. Je n'ai pas d'atome crochu avec les livres, je n'ai pas de lien organique avec les livres.
Qu'est-ce que vous en faites alors de tous ces romans que vous lisez ?
Quand il y en a trop, les livres que je reçois, par exemple, je m'en débarrasse d'une manière ou d'une autre, parce qu'on ne peut pas... Je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se débarrasser d'un livre, qui seraient même enclins à s'acheter une seconde maison pour pouvoir classer les livres. Ils ont une sorte de respect, comme si chaque livre était un bébé, un embryon d'enfant, etc., ou un membre de la famille. Moi, pas du tout. Alors, je m'en débarrasse comme je peux.
Par exemple, si je vous envoie un livre avec une dédicace à Dominique Rollin, oui, en témoignage de mon affectueuse admiration.
Ça dépend. Si j'ai beaucoup d'affection pour la personne qui m'a dédicacé le livre, alors là, je le respecte, évidemment. Parce que c'est tout de même une part de sa pensée, une part de son souvenir, de son affection qui joue.
C'est un mauvais exemple là, que vous donnez. Les écrivains, d'habitude, défendent les livres et la lecture.
Mais vous ne croyez pas que nous sommes très nombreux à réagir comme moi. Mais il y a beaucoup trop de livres. On est inondés. C'est exactement... C'est du UNESCO. On serait envahis par les livres. On serait enterrés sous les livres. Comme une pièce de Ionesco, son personnage, le nouveau locataire qui est enterré parmi tous ses meubles. Il faut même faire un tout petit peu le ménage chez soi, se garder un espace de vide et une perspective ouverte. Or, trop de livres, ça enferme.
Trop de livres et jamais assez.
Jamais assez à écrire.
À lire.
Et à lire, oui, mais je lis. Je lis moins maintenant. J'ai beaucoup lu, avec passion. Et j'ai des livres dans ma mémoire qui sont alors, eux, classés d'une façon extraordinairement grave, importante, passionnée, passionnelle. Et ça, ils me suivent tout le long de ma vie. Mais ils sont reliés, j'ai remarqué qu'ils sont liés à mon travail par recoupement, comme ça, par recoupement de temps, de situations que j'ai vécues, etc., d'événements.
Sont tous ceux qui sont conservés dans l'armoire à glace?
Oui, il y en a quelques-uns, comme cela.
Il y a eu un moment où vous étiez bibliothécaire?
Oui, j'ai d'abord travaillé dans une librairie. J'avais 20 ans quand j'ai travaillé dans une librairie de Bruxelles pendant 4 ans. J'ai travaillé comme vendeuse et j'adorais ce travail, d'autant plus que c'était une époque de crise comme celle que nous traversons aujourd'hui. Et nous avions, j'avais une petite collègue et moi, nous avions du temps pour nous mettre dans un petit coin de la librairie et lire ce que nous aimions. Et alors ça correspondait à l'époque de l'invasion de la littérature anglo-saxonne, que j'ai passionnément aimée parce qu'elle était exactement branchée d'avance sur mon besoin d'écrire et de concevoir le roman. Alors j'ai lu par exemple Virginia Woolf, j'ai lu Emily Brontë, je vous dis tout ça dans le plus grand désordre, Melville, Faulkner, j'ai lu les premiers livres de Faulkner, tout ça, Hemingway aussi que j'adorais, L'adieu aux armes, je me rappelle, ça m'avait bouleversée.
Des livres que vous dévoriez ou que vous savouriez?
Que je dévorais. Je lisais énormément. Mais je me demande si dévorer et savourer, c'est pas la même chose. Dans mon cas, dévorer et savourer, c'est la même chose. Je ne peux dévorer que ce qui se laisse savourer. Sinon, ça n'a aucun intérêt.
C'est pas de la boulimie?
Non, absolument pas. Il faut être logique avec ce que l'on sent dans sa tête, avec ce que l'on sent à travers tous ses sens, l'œil, la sensibilité aux événements, aux êtres, etc. Et se bâtir toutes sortes d'univers d'amour à travers les livres. Parce que j'aimais ces livres d'amour.
Mais ce n'était pas un amour désintéressé, puisque vous cherchiez dans ces livres une réponse aux questions que vous posiez.
Absolument.
Pour l'écriture de vos propres
romans. Mais il faut de l'amour pour cela. Il faut aimer son besoin d'aimer et de savoir et d'éclairer son propre travail. Il faut aimer. De toute façon, il faut aimer à travers. C'est un axiome, l'amour. De quelque manière sous quelque aspect qu'il se présente, il faut toujours que l'amour soit à la base.
Alors après ces lectures intenses et intensives dans cette librairie de Bruxelles, la librairie a dû fermer ses portes à cause
de vous ? Non, pas du tout. C'est parce que je suis partie. J'ai quitté la librairie parce que j'ai été nommée à la bibliothèque de l'Université de Bruxelles en tant qu'attachée. Et alors j'ai travaillé pendant tout un temps au service des achats de livres qui étaient commandés par les différents professeurs de l'université. Et puis j'ai aussi travaillé au service de prêt, ce qui était d'ailleurs passionnant parce qu'il y avait à la fois la libre circulation dans les rayons où je pouvais prendre les livres que je voulais et, comme vous disiez, dévorer, savourer en même temps les livres qui m'attiraient, qui me nourrissaient d'avance. Ça, j'ai travaillé à la bibliothèque de 1936 à 1946. Et c'était pour moi très, très fécond.
Maintenant, vous ne mettez plus jamais les pieds dans les bibliothèques?
Non. Je ne mets plus les pieds dans la bibliothèque. Parce qu'alors, il faut mettre les pieds dans la bibliothèque, c'est sortir de chez soi. C'est ça qui est effrayant. Moi, j'essaye de rester chez moi au maximum. Je me prive d'ailleurs probablement de beaucoup de choses passionnantes sur le plan intellectuel, les conférences, les séminaires, le cinéma, le théâtre, etc. Tout ça, je me le suis pas interdit, ça s'est défait dans mon horizon. Mon horizon est libéré de toutes ces choses-là. Et je passe des heures absolument émerveillées en compagnie de mon propre travail. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas douloureux. On peut être émerveillé par ses douleurs, par ses doutes, par ses angoisses.
Vous dites ça, mais je me demande si en fait, vous ne passez pas vos journées à regarder les feuilletons à la télévision.
Les feuilletons, non. Je regarde jamais la télévision dans la journée. Je regarde la télévision très, très, très peu. J'aime particulièrement certains films américains de seconde zone qui me font voyager dans des petites villes américaines, comme ça, des petites autoroutes, des voitures, des petites villes minables, des petits motels, etc. Ça, je trouve que c'est absolument passionnant. J'adore ça. Mais sinon, non, non, les feuilletons sentimentaux, tels qu'on en voit, jamais. Je préférerais mourir.
Vous avez demandé, Dominique Rollin, de choisir quelques livres parmi ceux qui vous ont bouleversé comme lectrice. Et le premier que vous avez cité, c'est « La recherche du temps perdu » de Marcel Proust. Alors voilà, vous avez tout Proust dans votre armoire à glace. Bien, quand vous avez envie de le relire, vous rachetez les éditions de poche.
Le phénomène Proust, c'est un phénomène à part. On peut le reprendre à tout instant, à tout âge. Je me rappelle que mes premières lectures de Proust étaient très incomplètes. Plus on entre dans Proust, plus on descend dans les abysses psychologiques, psychiques, religieux, de beauté aussi plastique. Enfin, tout est dans Proust. Tout est dans Proust. Chaque fois que je relis Proust, je suis complètement bouleversée. Et je me rappelle très très bien. Les premiers livres de Proust qui ont paru, c'était, je crois, vers les années 24, si je ne me trompe. J'avais donc 11 ans. Et je vivais donc à Bruxelles, dans ma famille. Et j'ai assisté à la bagarre anti ou pro-Proust dans ma famille. J'avais un oncle et une tante qui étaient fous de Proust. Alors tout de suite, ils ont été absolument enthousiasmés. Et mon père et ma mère étaient au contraire extraordinairement réticents. Et il y avait des discussions infinies autour de Proust. Moi, je n'ai commencé à le lire que beaucoup plus tard. Mais plus j'avance dans la vie, plus je l'aime. Mmh. Et plus je le trouve d'une génialité incontestable et toujours avec des sources plus profondes. C'est à chaque fois comme si on abordait une autre planète. Pour moi, c'est ça, l'espace. Le voyage dans l'espace, c'est Proust.
Vous le relisez souvent?
Oui. Et je l'ai relu plusieurs fois, je continue à le relire. Et alors, ce qui est merveilleux dans Proust, c'est qu'on peut le prendre à n'importe quel endroit. On peut prendre Un amour de Swann, on peut prendre Du côté de Guermantes, L'ombre des jeunes filles en pleurs. J'ai relu, il n'y a pas très longtemps, la prisonnière, La fugitive et Le temps retrouvé. Mais ça vous... On pleurerait tout le temps si on s'écoutait. Tellement c'est gorgé de choses inouïes.
C'est une lecture dangereuse pour un écrivain, parce qu'on peut être fasciné par la musique
non,
de Proust.
Non, pas du tout. Il s'agit simplement... Non, mais il faut respecter Proust. Essayer de faire du Proust, ce serait complètement ridicule. Il y a des écrivains qui essayent de refaire du Proust et qui ratent, évidemment, parce qu'ils ne se rendent pas compte que Proust, ce n'est pas une sorte de phrase sinueuse extérieur comme cela, alors que c'est plein d'une sève de souffrance, d'expérience, d'érudition, de recherche dans les abîmes de la mémoire. Et ils ratent évidemment leur coup. Et ça, je les plains parce que c'est affreux. Non, il faut se désolidariser de l'idée de toute influence. Il faut s'imprégner, il faut s'en nourrir. Il faut oublier pour pouvoir écrire. À partir du moment où je lis un livre qui me passionne, je l'oublie pour pouvoir être plus confortablement installé dans moi-même.
Faire table rase.
Voilà, tout à fait. C'est ça. Il faut faire comme si je n'avais jamais rien lu.
C'est difficile.
C'est difficile. Et en même temps, je dis cela, mais on est malgré tout complètement... on est envahi par tous les livres qu'on a lus. Je me rappelle par exemple, quand j'étais enfant, ma mère était professeure de diction dans plusieurs écoles de la ville, et son cours consistait à apprendre à ses élèves des poèmes. Alors j'ai avalé comme ça un nombre de poèmes. Ça allait de Maurice Rollina, « La biche brame au clair de lune et pleure à se fondre les yeux », comme par exemple Baudelaire, « Ruine, ma famille, ô cerveau congénère, je vous fais chaque jour un solennel adieu. Où serez-vous demain, Ève octogénaire, sur qui pèse la griffe effroyable de Dieu ?» Ça, c'est les petites vieilles. Eh bien, toute mon adolescence a été nourrie et j'ai gardé le souvenir de certains poèmes. Certains Baudelaire, un poème aussi de Théophile Gautier, bizarrement, ça m'est resté. J'ai oublié tout Émile Erhard, j'ai oublié tout Jeu en rictus que ma mère nous apprenait aussi par cœur. Mais ça m'a verni, ça m'a enduite d'une sorte de vernis, de vernis passionnel de la beauté, de la beauté écrite.
Et un vernis qui brille sans frotter.
Voilà.
Parce que aujourd'hui, vous ne les lisez plus, les poètes.
Oui, mais je ne les lis plus, mais j'ai gardé tout de même le mieux. Je lis tout de même, il y a 3 ou 4 poèmes de Baudelaire que j'ai gardés. Alors que, par exemple, ma mémoire à l'égard des livres de prose ne joue pas. Là, il y a une sorte de rythmique, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure de la musique. Il y a une rythmique du poème, il y a une configuration battante qui ressemble un peu à une sorte de marche, comme si on marchait au milieu d'un paysage, scandé par les vers, qui ne s'oublie pas. Si, par exemple, j'ai un trou de mémoire en me récitant un poème de Baudelaire, un trou de mémoire, un mot qui me manque, eh bien, je souffre parce que ce mot-là ne peut pas être remplacé par n'importe lequel. Baudelaire est un tel génie qu'il y a une sorte de mathématique de la poésie, mathématique du lyrisme irremplaçable. Et je cherche, et tout d'un coup, je retrouve. Mais pas pour la prose. La prose, ça s'efface. J'ai digéré la prose.
Mais pourquoi, alors, pour rester avec la poésie, vous vous êtes arrêté au 19e?
Non, par exemple, j'ai lu aussi, je lisais Apollinaire, je connaissais et entre autres, un très long poème qui s'appelait « Le jardin des morts ». C'est bizarre, parce que j'étais toute jeune, 18-20 ans. Et Émile Erhard était aussi du XXe siècle tout de même. Je venais être très, très... Mais pas, c'est du XXe déjà, ça.
Et vous, contemporain à vous?
Mes contemporains poètes, je ne les lis pas. C'est bizarre. C'est pas bien. C'est mal. Je suis tout à fait désolée. Mais je ne les lis pas. Mais je crois que j'ai fait le plein de ce qui doit être digéré en tant que culture. Je crois que je ne peux pas aller plus loin. Je ne suis pas une intellectuelle du tout. Je reste un animal qui sent, qui palpe, qui respire, qui touche, qui entend, qui voit.
Mais c'est le cas des grands poètes aussi.
Oui. Mais il faut les grands poètes d'aujourd'hui.
Qui ne sont pas des intellectuels non plus.
Oui, oui.
Qui réinventent la langue en partant de rien.
Oui, oui. J'ai tort, mais je ne les lis pas. Mais je suis honnête en vous disant ça. Je pourrais inventer. Je pourrais dire, oui, je lis tel ou tel poète, etc. Mais non, pas du tout. C'est mal.
C'est très mal. Qu'est-ce que vous demandez à un livre, au fond?
Ce que je demande à un livre, c'est de m'ensorceler. Parmi les livres de ma bibliothèque, un des auteurs qui m'a le plus frappé dans ma vie, c'est Melville. Par exemple, Billy Budd, Gabier de Misaine, est un livre que je ne peux plus relire tellement il m'a... C'est bien simple, il m'a blessé au cas, il m'a fait une blessure. Si je le relisais, je ne pourrais pas le supporter. Tellement il m'a laissé un souvenir... douloureux et splendide en même temps. Même chose pour Moby Dick. Moby Dick est un livre tellement admirable. Même chose aussi dans ma bibliothèque, Edgar Poe, les histoires extraordinaires d'Edgar Poe. Là, j'étais très jeune quand je les ai lues. Toutes ces nouvelles sont... D'ailleurs, c'est comme des poèmes, ces nouvelles. Elles sont... D'ailleurs, il y a une chose qui est tellement normale. Pourquoi est-ce que j'aime tant Edgar Poe et pourquoi est-ce que j'aime tant Baudelaire? Parce que Baudelaire a traduit tout Edgar Poe et il y a une sorte de... comment dirais-je, de fascination entre les deux. Je cherche à être fascinée par un livre. Et ça arrive rarement, cela.
Moby Dick, c'est un poème aussi.
Absolument. C'est un grand poème romanesque. C'est une chose inouïe, une fois que vous entrez dedans. C'est d'ailleurs, on entre, c'est la mer, c'est tout un royaume d'odeurs, un royaume de vent, de turbulences, de conquêtes, de dangers, de désirs, d'espoir, avec ce capitaine à câble, c'est extraordinaire. Un livre splendide. Mmh. Il y a Kafka aussi. Hein. Kafka a été pour moi une découverte. La première fois que j'ai lu Kafka, c'était La Métamorphose, lorsqu'elle a paru pour la première fois dans la NRF. Je crois me souvenir que c'était en 1938. J'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs siècles. Quand je parle de 1938, ça a l'air d'être tellement loin. Et ça a été pour moi aussi un événement. Il faut qu'un livre soit un événement dans une vie. Or, aujourd'hui, il y a tellement de livres qui ne sont pas des événements.
Mais c'est quoi un événement ?
Un événement, c'est quelque chose qui vous secoue, qui vous électrocute. Il faut être traversé par un courant électrique, un courant nucléaire. Il faut que ce soit ça. Et c'est rarissime.
Il y a un poète encore, Dominique Rollin, dont vous n'avez pas parlé, mais je sais qu'il tient une grande place dans votre bibliothèque. Remarquez, ça n'est pas difficile parce que son œuvre n'occupe pas une place considérable. C'est La Fontaine.
Or, ça, c'est la merveille. Alors, c'est toute l'enfance parce qu'on apprend les fables de La Fontaine à l'école. Et les enfants ne se rendent pas compte qu'ils sont branchés sur de véritables joyaux littéraires et qui s'ouvrent, ou alors des fruits qui s'ouvrent avec des perspectives de jus, de sensations, de fraîcheur, de paysage. Et chaque fois que j'entre dans La Fontaine, je retrouve cette espèce de fraîcheur d'enfance et d'émerveillement de la musique. Alors, je pense que c'est un des poètes qui a été le plus loin dans la musique de la construction de la phrase, de la science de la phrase, de la manière dont il enjambe parfois une phrase pour en commencer une autre, interrompre un vers, se lancer dans un autre vers. C'est miraculeux de grandeur. Et je me souviens d'avoir appris énormément à l'école. Mais en fait, on apprenait, je ne sais pas si on continue encore à apprendre beaucoup aux enfants dans les écoles aujourd'hui, La Fontaine, mais dans mon enfance, c'était vraiment très, 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 très travaillé. Et ça reste, ça ne s'oublie pas. Ça reste comme une sorte de miracle de la littérature, de toutes les littératures. C'est à la fois très moderne, parce que vous parliez de littérature contemporaine, ça pourrait avoir été écrit maintenant. C'est d'une telle génialité. D'ailleurs, les génies sont toujours contemporains. Tous nos génies littéraires peuvent avoir été écrits aujourd'hui même. Il possède à la fois le passé, le présent et l'avenir. Ce sont des inconditionnels du temps dans son ensemble, dans toute sa perspective, qu'elle soit révolue ou qu'elle soit à venir.
La Fontaine, ce n'est pas seulement l'auteur des fables. Les contes et nouvelles, c'est
oui,
aussi des choses...
Oui, mais j'ai moins lu. C'est aussi admirable. Mais je n'ai pas été aussi saisie par les contes et nouvelles que par les... De temps en temps, j'ouvre La Fontaine et je relis. Je relis les fables. Alors ça, je suis absolument... Encore une fois, là, il y a une clé d'écriture, comme dans Baudelaire, comme dans tous les grands poètes. On ne peut absolument pas extraire un mot sans que tout l'édifice, toute l'architecture du petit temple ne s'écroule. Il faut que tout soit... C'est exactement comme si on avait un château devant soi et que tout d'un coup, on veuille tirer une pierre à la base et on serait étonné de voir que tout le château s'écroule comme un château de cartes. Tout est vissé, tout est maçonné de telle manière, tout est musicalisé de telle façon que rien ne peut être changé. Et c'est ça qui est exaltant quand on relit un poème, une fable de La Fontaine. On est émerveillé par cela.
Vous ne les connaissez pas toutes par cœur?
Non, mais écoutez, mais il y en a tout de même. Le chat, la belette et le petit lapin, tout de même. Le corbeau et le renard, je crois que c'est une des premières fables, ou alors la cigale et la fourmi, qu'on apprend aux enfants à l'école. Je ne sais pas si on le fait encore maintenant, mais enfin, ça reste des sortes de fleurs. Ce sont des fleurs qui nous sont données par le temps et qui restent complètement fraîches, qui n'ont pas été du tout entamées par quoi que ce soit, aussi vivantes maintenant. Vous savez, c'est très curieux. Dernièrement, j'étais arrêtée devant l'étalage d'un fleuriste. Et contre mon visage, il y avait une fleur dont je ne connais pas le nom. Je ne sais pas si ce ne sont pas des gueules de loup. Ce sont des corolles à demi ouvertes avec une imbrication d'autres pétales à l'intérieur du... Et je me disais que c'était exactement comme une fable de La Fontaine. La perfection, l'étrangeté, Le délire de la nature a été saisi par un homme et est devenu délire d'écriture. C'est ça qui est prodigieux dans le cas de La Fontaine.
Et puis parmi tous les livres de la bibliothèque, il y a le livre, la Bible.
Oui. Je crois qu'on ne peut pas s'en passer. Je crois qu'il faut piocher dedans constamment. Le livre, il y a le Nouveau Testament, il y a l'Ancien Testament, tout est beau, tout est prodigieux. Chaque morceau de la Bible est un morceau de poésie pure, d'ailleurs. Et alors, ce qui me frappe toujours, c'est la sauvagerie, la cruauté, le côté qui est complètement moderne. Sur le plan psychologique, les rapports entre hommes et femmes, les tyrannies, les oppressions, tout est lié à notre histoire, à nous. Ce n'est pas du passé, c'est du présent et du futur aussi.
C'est avant de vous endormir que vous lisez la Bible ?
Non, je ne lis pas le soir parce que j'ai une telle passion du sommeil. Je dors bien, j'ai besoin de 8 heures de sommeil par jour. Et si je lis dans mon lit, ça me bouffe complètement et ça m'empêche de trouver le sommeil. Ça m'empêche de trouver la fente, la bonne fente par laquelle on glisse, cette espèce de toboggan qui vous emmène dans l'inconscient. Alors je ne peux pas. Je lis plutôt le matin, pas après mon travail.
Puisque nous venons de parler de la Bible... Nous pouvons terminer avec Philippe Solers,
oui.
Dominique Rollin. Solers qui vous publie dans sa collection
oui.
L'Infini.
Puisque... Je ne vois pas très bien le rapport avec la Bible, mais enfin, je veux bien.
Ça passe par le pape. Vous êtes la chouchou de Solers un peu.
Oui, mais je trouve que c'est un écrivain génial, j'ose le dire. Je trouve que c'est absolument superbe. Son dernier livre, Le Secret, est un véritable chef-d'œuvre. Justement, en pensant à cette émission, j'ai relu un peu comme ça à travers Le Secret. Il y a des pages splendides. C'est d'une beauté de langue, précisément, une beauté ciselée, qui m'émerveille. Et ça, c'est une chose qui se perd un tout petit peu, la ciselure de la phrase. Parce qu'il ne faut pas que ce soit du ciselé immobile. Là, c'est du ciselé mobile. Ça bouge tout le temps. Il y a tout le temps, il y a du feu, il y a la mer, l'océan, il y a le vent, il y a les turbulences, il y a les drames de notre époque, il y a le pape, comme vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a de plus turbulent et admirable que notre pape actuel?
Et puis, Solers cite comme vous La Fontaine, notamment dans son essai sur Fragonard, Les Surprises de Fragonard,
publié chez Gallimard. Oui, j'avais oublié cela. Il cite La Fontaine. Oui. Mais oui, mais bien sûr, ça ne m'étonne pas du tout de lui. D'ailleurs, quand on... Fragonard, La Fontaine, tout ça, ça se tient. Parce que là, on n'a parlé que de littérature. Mais si nous abordons le chapitre de la peinture, il y a aussi de quoi faire.
Oui, mais ça, ça nous ferait sortir de votre bibliothèque.
Voilà. Ah oui, 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 oui. Il y a des passages dans Solers, il y a des passages qui m'émeuvent profondément, parce que ce qui est étonnant, par exemple, dans Le Secret, c'est que c'est à la fois l'homme de culture qu'il est, un homme d'érudition qui a lu énormément, et lui qui a une mémoire absolument encyclopédique de tout ce qu'il... Il a dans une tête d'homme, c'est pas grand, hein. Il contient tout, et en même temps, il y a de la sensibilité. Alors, il y a des pages admirables sur sa mère, sur son fils, sur la manière dont il... sur la nature, sur les oiseaux, les plantes, les fleurs, les arbres.
Et le monde.
Voilà.
Le monde comme il va.
Absolument.
Mais parfois, il y a des passages un peu licencieux chez Solaire.
Oui,
ça ne vous choque pas?
Oh, pas du tout, mon Dieu. Pourquoi être choqué? C'est tout ça. Non, pas du tout. Tout ça rentre dans une sorte de même matière magnifiquement écrite. Je trouve qu'il n'y a pas à être choqué. Ça fait partie d'un univers. L'univers. Qu'est-ce que l'univers si... Qu'est-ce que vous appelez d'ailleurs le côté licencieux ou libertin? Qu'est-ce que vous appelez? C'est à la base de tout, ça. On passe son temps à se dire que nous vivons. Pourquoi? Parce qu'un jour, un homme et une femme se sont rencontrés, qu'il y a eu le petit jet initial, et que nos corps sont nés de ce petit jet initial. Alors pourquoi se cacher les choses? Non, je ne suis pas bégueule.
Faut appeler un chat un chat.
Oui, mais enfin, pourquoi? Non, là, vous... Là, c'est un peu... Non, 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 le mot « chat » ne convient pas, non.
Les deux livres de Dominique Rollin, Le Jardin d'Agrément, un roman, Train de rêve, des récits de rêve, tous les deux chez Gallimard. Du jour au lendemain, Christian Prévost, Brigitte Rioux, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 2 avril 1994.